Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'islam véhicule-t-il une haine des juifs? Est-il vraiment incompatible avec les valeurs occidentales de liberté individuelle et de démocratie? Et cet antagonisme des premiers jours influence-t-il les comportements contemporains des acteurs politiques au Moyen-Orient, palestiniens et israéliens, juifs et musulmans? Sans rien masquer des aspects les plus problématiques, notre invité fait le point sur ce dossier ô combien passionné. Les juifs dans le Coran, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche, une émission à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. L'attitude de l'islam envers les juifs occupe régulièrement le devant de la scène. Et elle est préoccupante car les opinions entendues varient généralement entre celles d'un Coran antisémite, pour les uns, ou celles d'une perfidie ancestrale des juifs, pour les autres. Des thèses qui dénotent soit une interprétation sélective de quelques sourates ou hadiths, soit carrément une méconnaissance du Coran lui-même. Qu'en est-il exactement? Eh bien, c'est tout l'exercice auquel vous vous êtes attaché, Meir Bar-Asher, bonjour.
Bonjour, monsieur Éric Bataillon.
Directeur du département des langues et littératures arabes à l'Université hébraïque de Jérusalem, vous publiez chez Albin Michel « Les Juifs dans le Coran » et dans sa préface, l'islamologue Mohamed Ali Amir Mouadzi, spécialiste de l'exégèse coranique traditionnelle, estime que vous êtes actuellement le savant le mieux placé pour déterminer ce qu'est la place du judaïsme dans la religion musulmane. Mais avant d'approcher ce qui peut être cette affinité entre islam et judaïsme, il n'est peut-être pas inutile de parler de la période pré-islamique sur les terres arabes. Peut-on dater les premiers contacts entre juifs et arabes dans la péninsule?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, entre juifs et musulmans, ça commence naturellement avec l'islam, au début du 7e siècle de l'ère chrétienne, mais les arabes et les juifs étaient en contact en Arabie et hors de l'Arabie, quelques siècles même avant l'islam. Et il y avait des arabes au nord de la péninsule et au sud de la péninsule, et il y avait des communautés juives très anciennes qui sont originaires de la terre d'Israël, après la destruction peut-être du premier temple et deuxième temple, et des immigrés, des réfugiés qui sont arrivés en Arabie, et puis ont construit des communautés. Dans les mêmes endroits, il y avait de populations d'arabes, donc le contact avec les arabes existait bien avant l'islam.
Il y avait même un royaume juif au sud de la péninsule, dans ce qui est le Yémen aujourd'hui.
Tout à fait, il y avait le royaume de Himyar, un siècle avant l'islam. Un des rois de cette dynastie de Himyar, qui s'appelait Youssouf Joseph Dhunwas, s'est converti au judaïsme et puis il a fait convertir tout le royaume. Donc c'est devenu un royaume juif en péninsule et qui était en relation avec l'empire sassanide, tandis que l'Éthiopie était en relation avec les Byzantins. Il y avait des guerres permanentes entre les deux pouvoirs politiques de l'époque.
C'était des bagarres entre les juifs d'un côté sur la péninsule arabique et les chrétiens
de l'Éthiopie. L'Éthiopie est aussi d'une colonie éthiopienne en Arabie.
Quel type de judaïsme était-ce dans cette région à l'époque? Était-ce un rite rabbinique? Était-ce un rite plutôt judéo-chrétien ou carrément des rites sectaires?
Alors justement, on ne sait pas exactement, on ne sait pas dire de manière certaine quelle sorte de judaïsme. C'est sûr que c'est pas le judaïsme que nous connaissons par les sources rabbiniques. C'est pas le judaïsme qui est identique complètement avec le judaïsme que nous connaissons du Talmud, des Midrash, de la littérature post-biblique. On trouve dans ce judaïsme des éléments judéo-chrétiens, on trouve des éléments sectaires comme par exemple qui caractérise le judaïsme et karaïte ou proto-karaïte. Et donc c'est un judaïsme qui n'est pas tout à fait identique au judaïsme connu par les sources rabbiniques. Et on voit une réflexion de ce judaïsme dans le Coran. Quand on lit le judaïsme, ce que raconte le Coran sur les juifs et le judaïsme, on voit que c'est d'un côté ressemble à ce que nous connaissons comme judaïsme, mais il y a des éléments qui sont pas identiques. On se demande de quoi ça vient. Il y a beaucoup des hypothèses, mais les grandes parties des chercheurs pensent que c'est un résultat de toutes ces sectes qui ont existé dans la péninsule, dans la période et anti-islamiques.
Toutes ces sectes, et notamment des sectes chrétiennes, finalement.
Chrétiens, judéo-chrétiens. Chrétiens, judéo-chrétiens, tout à fait.
Alors, à partir de 622 et l'expulsion de Mohammed de la Mecque, ce dernier s'installe à Médine et signe avec les principales tribus juives médinoises le fameux pacte de Médine. Oui. Peut-on parler à l'époque d'une coexistence au sein d'une même communauté qu'on appelle l'Oumma?
Oui, il y avait une coexistence, mais qui n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire, il faut savoir qu'avant l'arrivée de Mohammed à Médine, les Juifs étaient les dominants, c'était les tribus qui ont dominé les Arabes dans cette partie de l'Arabie. Quelques années après l'arrivée de Mohammed, la situation a changé complètement. C'est Mohammed qui est devenu le leader. Et en formulant ce contrat de pacte de la communauté, Ahd al-Umma, il a engroupé toutes les communautés et les Juifs qui étaient déjà les anciens et les Arabes locaux, en plus les immigrés qui sont arrivés avec lui de la Mecque. Il a construit cet pacte de Omar et il était le leader. Et après quelques efforts qui ont duré pas longtemps, peut-être d'après les sources arabes et aussi avec la recherche est d'accord plus ou moins avec ça, ça durait à peu près un an et demi, que Mohammed a essayé de présenter l'islam de manière qu'il sera accepté par les juifs puisqu'il était refusé, au moins ce que les sources musulmanes nous disent. Il commence à changer l'attitude et les juifs deviennent une minorité qui est moins supportée par l'islam et plus tard, il adresse la guerre.
Ce qui a fait peut-être basculer les choses, c'est Mohammed accuse les tribus juives de ne pas l'avoir soutenu, de ne pas avoir respecté le pacte, notamment lorsqu'il guerroyait.
Oui, ça c'est la façon expliquée par la Sira, par la biographie. Bon, c'est pas exactement historiquement ce qui est passé, mais afin de justifier son attitude vis-à-vis des Juifs, donc l'argument qu'il s'était causé par une trahison de la part des Juifs. Ils n'ont pas soutenu la cause de l'islam et en plus ils ont trahi Mohammed, donc c'était la raison pour un processus de délégitimation de la population juive. Ça commençait d'abord par des expulsions de ces tribus vers le nord, de Médine vers Khaybar. Plus tard, il est arrivé au nord pour les expulser encore de Khaybar. Normalement, dit pendant un an et demi, on voit, et se reflétait dans les sourates de Médine au Coran, et on voit une attitude relativement positive vis-à-vis des Juifs, même à la Mecque et au début de la période médinoise. Et ça change complètement après ces efforts de la part de Mohammed de les faire soutenir la cause islamique.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Meir Baracher, directeur du département des langues et littératures arabes à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui publie « Les Juifs dans le Coran » chez Albin Michel. Meir Baracher, comment nomme-t-on les Juifs dans le Coran ?
Donc, ils sont nommés par quelques noms dans le Coran. Et un des noms qui est très répandu dans quelques sourates de l'époque médine, ils sont appelés les Banu Israël, qui veut dire les fils d'Israël. Et lorsqu'on utilise ce nom dans le Coran, on parle régulièrement des Juifs anciens, c'est-à-dire des Juifs bibliques. Quand on raconte les histoires, les récits bibliques, on utilise normalement le terme Banu Israël, qui est d'ailleurs ambigu, mais planché vers le positif. C'est-à-dire, dans quelques cas, on critique aussi les Banu Israël, les fils d'Israël, mais c'est plutôt un terme plus positif que négatif. On trouve aussi, tout particulièrement dans les sourates des chapitres médinois de la Mecque, on trouve le nom Yahoud, qui est plus ou moins l'équivalent de Juif, si on utilise le mot français, tandis que Banu Israël serait l'équivalent des Hébreux ou des Israélites. Donc, Yahoud, c'est un terme, j'aurais dit, très péjoratif dans le Coran. Lorsqu'on accuse les Juifs, c'est toujours lié avec le terme Yahoud. Par exemple, quand on dit que les Juifs croient que Dieu a engendré un fils, c'est parallèlement à la croyance des chrétiens, on dit Uzair ibnullah. Uzair est le fils de Dieu, donc c'est une accusation vis-à-vis des Juifs qui sont pas des vrais monothéistes, exactement comme le français. C'est dans la sourate 9, verset 30. C'est un verset très fameux, très polémique. Donc le terme utilisé là-bas, c'est Yahoud. Et dans d'autres cas polémiques, on utilise le terme Yahoud, soit dans cette forme, soit par une forme verbale, et ladina hadou, ceux qui devenaient juifs. Un autre terme qui est aussi utilisé assez régulièrement, c'est Ahl el-Kitab, le peuple du livre sacré, du livre divin. Mais quand on utilise ce terme, ça peut être appliqué aussi sur les chrétiens. Donc il faut toujours bien préciser les choses pour voir s'il s'agit des deux religions ou d'une d'eux. C'est pas définitivement les juifs, ça peut être aussi les chrétiens. Plus ou moins, ce sont les trois termes qu'on utilise dans le Coran.
Alors dans le Coran, en revanche, le peuple juif est présenté comme le peuple élu.
Oui, mais il faut préciser que quand on parle de peuple élu, on parle toujours de Banu Israël, de fils d'Israël, pas les Yahouds, c'est-à-dire les élus étaient les juifs bibliques. Ils étaient élus, et c'est une idée qui est très fondamentale dans le Coran. C'est répétitif, se trouve plusieurs fois. C'est dit, « Ya banu Israël, uzkuru ni'mati lati anamtu alaykum, wa nifaddaltukum ala alamin, ô fils d'Israël, rappelez de la grâce que je vous ai accomplie et que je vous ai choisi parmi le peuple. » Donc, il y a une notion très claire des élections, mais des Hébreux anciens, des fils d'Israël. Et ces fils d'Israël même, qui sont l'objet d'une élection, n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu, et par le fait qu'ils n'ont pas respecté l'alliance, ils étaient rejetés, et puis ils étaient remplacés, si vous voulez, par les musulmans. Nous trouvons un autre verset qu'on peut considérer comme un remplacement d'une alliance par une autre alliance. Nous avons un verset très connu dans la sourate 3, verset 110, qui dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Vous êtes, c'est-à-dire c'est adressé aux Arabes, aux musulmans, à la nouvelle communauté, vous êtes la meilleure communauté qui a été mise devant pour l'humanité. C'est-à-dire, vous êtes maintenant l'élu, vous êtes les meilleurs. Donc, il y a ici l'idée de remplacement de l'alliance. Si vous voulez, c'est parallèle à ce qu'on trouve que le christianisme remplace, il devient le vrai Israël, le vrai Israël. Donc, la même idée se trouve dans le Coran. Ce qui est important, c'est que le Coran ne dit pas, même quand il parle de son élection à lui, il dit pas que c'est quelque chose qui est donné automatique et garanti pour l'éternité. Même les musulmans, ils risquent de perdre l'alliance s'il ne va pas dans le bon sens. Oui.
Dans l'un des chapitres du livre, vous mettez en balance les lois coraniques et juives, et il semblerait que ces lois sont très ressemblantes.
Oui, il y a une ressemblance énorme entre la loi et l'aspect légal, l'aspect jurisprudence dans le judaïsme et dans l'islam, et on ne peut pas douter que ça remonte à la coexistence qui existait entre arabes et juifs et en Arabie avant l'islam, tout particulièrement dans la ville de Médine où ils vivaient dans le même espace. Et on voit ça dans les règles de la prière, on voit ça dans les règles de jeûne, on voit pas dans les règles des alimentations et permises et non permises. Dans plusieurs domaines, on voit une ressemblance non seulement par l'idée que les deux religions sont des religions de loi, des religions halakhiques, et les deux sont, dans ce cas-là, dans le même côté, ils sont tout à fait différents de l'autre sœur, qui est le christianisme, qui n'est pas religion de loi. Mais on peut trouver non seulement les ressemblances, mais aussi les divergences. Et donc, quelquefois, on voit, dans la première étape, une ressemblance, et puis il y a un recul que l'islam fait. Ça, c'est intéressant, on voit. Et au début de l'époque médinoise que l'islam accepte, il y a une ressemblance beaucoup plus marquante entre judaïsme et islam sur le plan légal. Et puis, après le crise qui s'est passée entre juifs et musulmans, les musulmans s'éloignent de la loi et le changent. Et ça, c'est intéressant. On trouve qu'il y a deux stratégies qu'on peut identifier. D'abord, une qui dise il faut s'appuyer sur l'héritage juif, parce qu'elle est aussi divine que la nôtre. Il y a des versets coraniques qui le disent de manière explicite. Mais tout d'un coup, après la crise entre les deux religions, nous trouvons une nouvelle méthodologie, une nouvelle voie, qui est formulée sous forme de hadith. « La tatashabbahu bil yahoud wa nasara » ne ressemblait pas aux juifs et aux chrétiens. Reculer de cette religion, pourquoi ? Je pense que c'est le besoin d'une nouvelle religion, après avoir été influencé des anciennes religions, c'est le désir et le besoin de s'identifier de manière indépendante, prendre l'écart ou éloignement des autres religions.
Alors vous consacrez également un chapitre à la place du judaïsme dans l'islam chiite du Haut-Décima. Pourquoi ?
Parce que c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup lorsque j'ai vu pour la première fois quelques traditions orales et attribuées aux imams et par les imams à Mohammed, ce qu'on appelle hadith en arabe, donc quelques sources chiites qui m'ont frappé dans les deux sens. D'abord, on trouve une idée qui est introuvable dans l'islam sunnite, que les chiites se considèrent comme le vrai Israël. C'est étonnant. Dire, on vient de parler de ce verset qui parle de l'élection du peuple d'Israël, « Ô fils d'Israël, vous êtes le peuple élu », alors les chiites disent « C'est nous le peuple élu dont le Coran parle, nous sommes les vrais Banu Israël ». J'ai trouvé la réponse dans les sources chiites même. Le chiisme d'Odessima, tout particulièrement, qui était la majorité parmi les groupes chiites et aujourd'hui et au passé, ont vu le peuple juif comme un exemple extraordinaire pour leur propre histoire. Pourquoi ? Parce que le peuple juif représentait une minorité persécutée, mais avec un bon fin, avec un happy end. Donc il y avait la persécution en Égypte par les pharaonites, et puis c'est fini par l'exodus de l'Égypte et l'arrivée à la Terre Sainte et construire un pouvoir politique en Palestine. Donc le peuple d'Israël peut survivre comme un exemple. Il est considéré comme l'archétype pour le chiisme. Et d'un autre côté, sur le point légal, sur le plan légal, on trouve quelque chose qui est tout à fait le contraire. Et aussi, le chiisme se caractérise par cette attitude qu'on ne trouve pas dans l'islam sunnite. C'est seuls les chiites, duodécima, et aussi les chiites zaïdites, qui considèrent les juifs et les chrétiens, et tout ce qui n'est pas musulman, comme impur. Il y a la notion de l'impureté des autres, le najasa. Donc comment vivre avec ces deux extrémités qui sont tout à fait contradictoires? D'un côté, ils sont le peuple élu et on va identifier avec eux et c'est nous qui devenons le peuple élu. Et de l'autre côté, c'est des êtres impurs qu'il faut s'éloigner d'eux, il faut pas les toucher. Et si un juif ou un chrétien touche physiquement un chiite, donc d'après les lois chiites, il faut qu'il se purifie afin de se débarrasser de cette impureté. On peut encore résoudre cette dichotomie, par cette dichotomie, les chiites distinguent entre les Banu Israël, les fils d'Israël qui sont des êtres ambigus mais plus positifs que négatifs. Donc quand ils s'identifient avec les aspects positifs, c'est toujours avec les anciens israélites de la Bible qui étaient plus ou moins des êtres acceptables, mais pas avec les juifs tardifs qu'on doit rejeter à cause d'une série des accusations qu'on trouve contre eux dans le Coran.
Contre les juifs d'aujourd'hui et aussi, évidemment, les Israéliens.
Tout à fait, tout à fait.
Alors justement, Meir Baracher, est-ce que cette place des juifs dans le Coran influence la situation politique sur le terrain et les rapports qu'il peut exister entre les juifs d'Israël, par exemple, et l'Iran ou alors l'Arabie Saoudite, qui sont deux pôles, un chiite, l'autre sunnite?
Les textes du Coran et le commentaire, il est une source claire d'influence. Les musulmans vivent, sunnites et chiites vivent avec un attachement très profond au Coran. Donc, dire que c'est la chose qui les inspire, qu'ils pensent pas aussi politiquement, social, ils prennent pas des autres aspects pour construire leur attitude vis-à-vis d'Israël, ce serait pas vrai. Mais il faut dire que les textes religieux nourrissent la pensée, et sûrement lorsque Khamenei ou les dirigeants de l'Iran ou les dirigeants de Saoudi formulent leur attitude vis-à-vis de l'État d'Israël, vis-à-vis le sionisme, il y a une combinaison de considérations politiques, purement politiques, mais il y a toujours l'arrière-plan de connaissance, de bien-connaissance des sources médiévales qui influencent leur attitude. Et on l'entend souvent. Lorsque, par exemple, j'entends les serments souvent qui sont prononcés par Nasrallah, le leader de Hezbollah en Liban, il va toujours vers les sources coraniques, hadiths, etc., pour montrer que cette tension entre les religions existait depuis le début, depuis ce caractère de trahison, de ne pas respecter l'alliance, etc., qui, par lequel on caractérise les juifs. Ça fait partie de la nature des juifs qu'on trouve dans les sources classiques.
Donc la solution, il n'y a pas de solution? C'est insoluble? Le conflit, par exemple, israélo-palestinien, est insoluble à l'aune de la religion?
Et je pense que pour le résoudre, il faut éviter des considérations religieuses. Il vaut mieux s'appuyer sur des considérations, sur des intérêts politiques que des intérêts religieux. À mon avis, la religion, dans tous les côtés, complique les choses plutôt que les facilite.
Merci Meir Baracher. Je rappelle que vous êtes directeur du département des langues et littératures arabes à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Merci à vous Eric Bataillon.
À lire donc cet ouvrage passionnant, érudit et très instructif, Les Juifs dans le Coran, publié chez Albin Michel. Merci à Mathias Golshani qui a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo. À samedi prochain, dans quelques secondes, le journal.